c'est le début du troisième chapitre de ce traité. Pour vous dire juste que les deux premiers chapitres s'occupent de la mitzvah de la soukha elle-même. Et c'est le premier, c'est le troisième chapitre qui commence à traiter des arba'a minim, des quatre espèces, qui font l'objet évidemment de la mitzvah, d'une mitzvah supplémentaire pendant le temps de Sukkot. Vous avez donc le premier texte en haut qui est celui de la Mishnah et 4-5 lignes plus loin c'est celui de la Gemara. Nous allons lire juste la première ligne de la Mishnah puisque c'est le texte. Le texte de la Gemara se rapporte seulement à cette ligne. Et donc le texte de la Mishnah commence par Lulav Hagadul Veayavesh Pasul Shel Ashera Veshel Ir Hanidahat Pasul.
Ça vient.
Donc Lulav Hagadul Veayavesh Pasul. Encore une fois, vous remarquez certainement le style calligraphique de la Mishnah. Ken
Yavesh.
Lulav Hagadul. Ken, ce lulav qui a été volé, ou volé par effraction, ou la différence, certainement, vous la connaissez entre Ganav et Gazlan. Ganav, c'est en cachette, d'accord, et Gazlan, c'est à midi.
Hold up.
Et en plein jour, devant le propriétaire lui-même. Et peut-être encore une remarque juste de étymologie, il y a aussi Hamtan. Hamtan et Gazlan. Généralement, on ne connaît pas la différence entre Lahmos, qui est aussi un terme qui veut dire voler, mais quelle est la différence entre Gazlan et Hamtan? C'est que Gazlan, il prend ce qu'il veut et il s'en va. Alors que le Hamsan, il prend ce qu'il veut en laissant le prix de ce qu'il a pris contre le gré de son propriétaire, tout simplement. Bon, malgré cela, ça s'appelle d'une certaine façon Gazlan. Donc, Lulav Hagazul, un Lulav qui a été acquis par le biais de la Gzela, Vehayavesh, qui est sec, qui est blanchi par la sécheresse, c'est le degré la limite telle qu'il n'est plus possible pour la mitzvah, pasoul, c'est-à-dire non apte à appliquer la mitzvah, ni avec le lavagazoul, ni avec le yavesh. Shel ashera ve shel ir hanidahat, pasoul. Je voudrais traduire aussi ces deux-là, puisque ils sont interprétables à l'intérieur de la Gemara. Shel Ashera. Ashera, c'est un arbre qu'on a planté ou bien pour s'en servir comme idole ou bien pour qu'il soit un jardin autour d'un endroit d'idolâtrie. Ou bien lui-même idole, ou bien il peut servir on peut prendre par exemple de ce palmier, de prendre des loulavis pour pouvoir balayer la cour de l'idole. Ça s'appelle Ashera. Donc, ou bien l'arbre lui-même est idole, ou bien il peut servir lui aussi pour ça. De chez l'Ir Hanidahat. Ir Hanidahat, c'est l'existence d'une ville en Israël qui a été incitée par deux personnes au moins à pratiquer l'idolâtrie. si toute la ville a pratiqué l'idolâtrie, elle s'appelle Ir Hanidahat. Nidah, lehadiyah, c'est pousser. Pousser quelqu'un, c'est-à-dire l'inciter à, évidemment, à quoi ? À l'idolâtrie. Ir Hanidahat, c'est toute cette ville qui, finalement, on a vérifié qu'elle a pratiqué l'idolâtrie dans ces conditions. Il faut, comme sanction, selon la Torah, brûler tous les biens qui existent dans cette ville. Si jamais il y avait des palmiers dans cette ville, et que quelqu'un a pris un loulav de ces palmiers, alors ça s'appelle loulav shel ir hanidaha. Lui aussi, comme shel ashera, Pasoul, mais chez l'Iranidahat, Pasoul. Au niveau des mots de la traduction, je pense que vous n'avez pas de questions. Et je voudrais revenir ici à une remarque générale, je crois qu'on pourrait faire à propos presque de beaucoup de Mishnayot, beaucoup de traités du Talmud, qui, si l'on se réfère à la Torah, nous savons que le verset des quatre espèces commence par, on va d'ailleurs le citer à l'intérieur de la Gemara, Ulkartem lachem bayom harishon peri et hadar. Vous prendrez pour vous le premier jour, le Sukkot, évidemment, peri et hadar. Peri et hadar, un fruit d'arbre beau. C'est quoi? Le etrog, évidemment. Il y a toute une page de la Gemara qui essaye de se poser la question pourquoi ça serait le etrog et pas du pilpel ou autre chose, Ken. Et bon, on n'a pas trouvé assez de preuves, mais on sait que c'est le etrog. Donc, peri et hadar, c'est le etrog. Ensuite, kapot temarim. Kapot temarim, des palmes de dattes, de dattier. Là aussi, kapot temarim, ça veut dire, dans le langage de Torah Shebe'alpe, loulav. C'est notre loulav. Mais la Torah ne l'appelle pas comme loulav, kapot emarim. Anaf et avot, la branche d'un arbre tressé. Bon, identifié avec le hadar. Ve'arve nahal et les sols des rivières. La remarque que je voulais faire, c'est que la Torah commence par le etrog, commence par le cédra. Or, la Gemara commence par le loulav. Le chapitre, d'ailleurs, si vous suivez la Mishnah de ce troisième chapitre, vous avez loulav à Gazoul, Hadas à Gazoul, la prochaine Mishnah, Arava à Gezoula, et etrog à Gazoul, d'ailleurs. La même phrase qui est dite ici à propos du loulav est dite à propos des autres espèces. Pourquoi est-ce que la Mishnah change l'ordre inverse, commence par le lulav plutôt que par le etrog qui est l'ordre de la Torah? Il y a, je crois, une règle générale que l'on pourrait faire entre Torah Shebistav et Torah Shebe'alpe. Torah Shebistav qui a commencé ici par le etrog et Torah Shebe'alpe qui commence par le lulav. Vous connaissez certainement le parallèle qui est fait entre le etrog, le lulav, hadas et arava, dans le fait où le etrog, il a un goût et il a un parfum, le hadas, il a un parfum et il n'a pas de goût, le lulav, il a un goût, c'est-à-dire des dattes qui sont comestibles et il n'a pas de parfum, et la arava qui, elle, n'a ni parfum ni goût. C'est évidemment en parallèle avec les différentes personnes de la communauté d'Israël, ou bien c'est la personne qui a aussi bien un goût et un parfum, c'est-à-dire elle étudie la Torah et elle a des ma'asim tovim, des actes corrects. Celui qui a un parfum et qui n'a pas de goût, c'est celui qui a des actes et qui n'a pas de Torah. Celui qui a seulement le parfum, seulement le goût et pas le parfum, c'est celui qui a la Torah et pas les actes, et celui qui n'a ni l'un ni l'autre. A priori, le hétro qui représente le tzaddik, à la limite, qui a aussi bien Torah et Ma'asim Tovim, serait ici le premier duquel il faudrait parler, comme la Torah l'a fait. D'autant plus que la question se pose encore plus dans le fait où la bracha que l'on fait, c'est Al-Netilat Lulav. Ça correspond avec la Mishnah qui, elle, commence par le Lulav, alors on comprendrait que c'est pour cela que la bracha a été instituée Al-Netilat Lulav. On aurait dû dire Al-Netilat Arba'a Minim, ou bien si déjà on en sort un d'eux, il aurait fallu prendre le Etrog, qui lui résume d'une certaine façon. Pourquoi donc Al-Netilat Lulav, le Lulav seulement, et aussi pourquoi est-ce que la Mishnah commence par Lulav Gazim? Il y a là, évidemment, le principe qui fait la différence entre Torah chez Bichtav et Torah chez Be'alpé. Torah chez Be'alpé, la loi orale, pour être définie comme étant le chemin par lequel il faut passer pour aboutir à Torah chez Bichtav. Comme si Torah chez Bichtav serait un plan d'architecte et Torah chez Be'alpé serait l'architecte qui dit quels sont les matériaux, les étapes par lesquelles il faut passer pour construire et aboutir à ce que la Torah a donné. C'est pour cela d'ailleurs, la Torah nous dit par exemple d'observer le Shabbat, mais que les travaux sont interdits le Shabbat, mais quel travail est interdit, on ne sait pas. Torah chez Be'alpé vient nous donner le détail de ces travaux afin de nous mettre sur le chemin pour aboutir à la mitzvah de Torah chez Birta. Là aussi, nous avons finalement la différence entre le lulav et le etrog. Il y a ici une différence essentielle. Même si le etrog semble le vrai tzaddik, mais voilà que le lulav, c'est celui qui s'unit avec les autres. Parce que le lulav, on le ligote, on le lie avec le hadas et la haraba. Alors que le etrog est tout seul. C'est-à-dire, ce tzaddik, peut-être, qui lui n'a que ta'am, n'a que le goût, et il n'a pas de parfum. Mais il arrive à s'associer avec ceux qui n'ont ni goût ni parfum, ou ceux qui n'ont pas ce qu'il a. Celui-là, ce tzaddik, il est plus dans l'objectif de Torah chez Be'alpé que le Etrog qui est tout seul. Le Etrog, c'est le tzaddik qu'il faudrait être. Ça, c'est le projet. Ça, c'est Torah chez Bichtav. Maintenant, mais de quel tzaddik on a vraiment besoin? Mais ça ne fait rien qu'il soit avec ta'am, avec re'ah, sans ta'am et sans re'ah. Il y a même un tzaddik qui n'a que le ta'am sans le re'ah, mais qui arrive à être avec et le hadas et la arava. C'est de ce tzaddik dont on a besoin au niveau de Torah chez Be'alpé, parce que c'est lui qui finalement fait l'unité de ces espèces. Et dans ce sens, c'est lui l'objet de la bracha. Parce que, comme nous savons, ce monde a été créé avec Bet, Bereshit. Le monde la Torah commence par Bet pour nous dire que ce monde a été créé à cause de la bracha. Comme Bet de bracha, comme bracha commence par le Bet et Bereshit aussi, le monde de la bracha, c'est ce monde-là. C'est là où il s'agit de dévoiler la bracha. C'est ce Olam Hazeh qui est objet de bracha possible. C'est pour cela qu'il a été créé par le mot bet. Et alors, sur qui on fait la bracha, parmi ces espèces-là, c'est sur le lulav. Parce que c'est ce tzaddik-là qui lui, même s'il n'a pas de réah, mais il arrive à s'unir avec les autres espèces, c'est lui finalement qui provoque la bracha dans ce monde. C'est pas tellement ses qualificatifs, aussi grands soient-elles, comme celui du Etrog qui a etan et réah, mais parce qu'il est avec les autres, c'est lui qui est capable de dévoiler le monde de la bracha. Alors que le Etrog, comme le dit le Zohar, Peri Aet Hadar, qu'est-ce que c'est que Peri Aet Hadar? C'est ce fruit dont l'arbre et le fruit ont le même goût. Généralement, le fruit d'un arbre, ou plutôt l'arbre, n'a pas le goût du fruit. Mais la Torah me demande de prendre Peri Aet Hadar, Peri Aet, le Peri Shel Aet, et là Peri Aet, comme s'il y avait une égalité entre le Peri et le Aet. Le fruit et l'arbre, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que c'est le fruit et l'arbre, c'est la même chose? C'est pas le même. Le Péri-Aet, c'était ce projet qui a été formulé dans la création, Totseha Aret, d'accord? Péri-Aet, Aet Péri, alors que va Totseha Aret, Aet Ose Péri. Donc, le Aet Péri, qui est ici, Péri-Aet Hadar, c'est finalement ce tzadik du Olam Haba, c'est pas là, c'est pas ici qu'on le trouve. Alors quel est le tzadik de ce Olam? C'est le lulav. C'est pour cela que la bracha c'est sur le lulav et pas sur le etrog. Parce que c'est dans ce monde qu'il s'agit de dévoiler la bracha, et dans ce monde qui représente vraiment les quatre espèces, c'est le lulav qui représente le Olam Haba. Alors c'est lui qui est sujet de bracha. Pourquoi? Oui. En quoi est-ce qu'on a ça? J'ai dit le goût c'était des ma'asim ou la Torah. Oui. La Torah. Pourquoi? Pourquoi est-ce, et à vrai dire, j'aurais tendance plutôt, comme tu le dis, à considérer que celui qui a les marasim est beaucoup plus que celui qui a la Torah. Mais dans le sens où c'est la Torah qui dicte ces ma'asim-là. Parce que il n'y a de ma'asé que celui que la Torah indique. C'est ça le vrai ma'asé. Talmud Gadol Shemedi Lide Ma'asé. Il y a une discussion dans la Gemara entre Rabbi Akiva et d'autres talmudistes qui disent Talmud Gadol et ceux qui disent Ma'asé Gadol. Discussion entre une première possibilité, c'est que il y a tendance plutôt au Talmud qui est Gadol. Ben, c'est l'étude vraiment qui renseigne, qui donne la possibilité d'une ouverture vers le monde de là. Mais il y a ceux qui disent le Maaseh Gadol, c'est les hommes d'actes, même s'ils n'ont pas cette Torah, c'est ça ce qui est Gadol. Finalement, la Gemara n'accepte ni ça ni ça, mais accepte une autre formule qui est Talmud Gadol Shemevi Lide Ma'asé. C'est Talmud Gadol, le Talmud est grand lorsqu'il amène vers l'acte. Dans ce sens, le Lulav qui est Talmud, mais qui est avec aussi l'homme du Ma'asé, avec le Hadas, et même avec celui qui n'a pas de Ma'asé, c'est le Talmud Gadol Shemevili de Ma'asé qui finalement se trouve plus dans le Lulav que dans le Hadas. Ok.
Je dis que l'on donne plus d'importance au Lulav. Quand on fait la Torah pour le Lulav, on prend en premier le Lulav et après on associe le Lulav.
On prend d'abord, la halakha c'est de prendre le loulav, de renverser le etrog, de faire la bracha, et après de relever le etrog. Bien sûr, d'ailleurs le loulav c'est biyad yémin, le loulav est à la main droite, et c'est la main droite généralement qui est la main de la main préférée au niveau de la mitzvah, dans chaque mitzvah, que tout acte de mitzvah qui se fait, il se fait avec la main droite. D'accord, mais malgré cela, c'est en renversant le etrog et en laissant le lulav droit que l'on commence la bracha avec. C'est qu'à la fin de la bracha que on renverse le etrog. Donc lulav hagazul, c'est dans ce sens où, et pour résumer ce que je viens de dire, c'est pour cela que la Torah, la Mishnah ne va pas dans l'ordre de la Torah. C'est vrai que la Torah a commencé par le Peri Etz Hadar, qui est le Etrog, alors que la Mishnah, elle commence par le Lulav. Parce que le but de la Mishnah, c'est celui de nous dicter par quel biais, de quelle façon, on va arriver à appliquer cette Torah Shebichta. Et parce que le Lulav se trouve réuni avec les autres, vous pouvez d'ailleurs poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne les ligote pas tous en même temps? C'est que dans la Torah, c'est intéressant de voir que il est écrit Peri Etz Hadar Kapote Marim Va'anaf Etz Avot Ve'arve Nahal. Le Anaf Etz Avot et Arve Nahal, il y a un Vav devant chacun. Peri Etz Hadar comme s'il était à part. Et Kapote Marim Va'anaf Etz Avot Ve'arve Nahal, le Vav les lit les trois. C'est pour cela que on les lit ensemble et on met le etrog à part. Comme si les trois représentent plus, actualisent plus le olam hazeh, puisque ce tzaddi qui est en même temps ta'am vereach comme il le faut, c'est nadir, c'est pas toujours que ça existe. Qui représente le olam hazeh, c'est beaucoup plus ces trois-là qui doivent être unis pour pouvoir faire l'objet de la mitzvah.
Voilà, en même temps, le Péa et la Flore, le Lula, le Arafa, le Lula, on est en d'autres côtés, le Péa et la Flore. C'est-à-dire qu'en fait, il n'existe pas de tzadé. Il n'existe pas de tzadé chavé dans la main des haines. Donc, il y a un autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend le Lula. Qui a le goût et qui n'a pas de réa, on prend le hadar qui a le réa et pas de goût et la rafa, et on attend le tout, et alors le tout, ça fait le peuple d'Israël. Comme on dit, Israël a réussi de passer. Alors, il y a chez Haché Soma, il y a chez Haché Soma, il y a chez Haché Soma, il y a chez Haché
Soma, il y a
chez Haché Soma, il y a chez Haché Soma, il y a chez Haché Soma, il y a chez
Mais il faut quand même remarquer qu'est-ce qu'on a assemblé, qu'est-ce qu'il faudrait lier d'après ces trois. Dans ce sens, de toutes les façons, les quatre sont nécessaires. Mais malgré cela, ces différences entre les trois et le un, ça demande explication. Sinon, on aurait voté les quatre. Mais on a besoin des quatre, certainement, pour faire tout le peuple d'Israël. Bon, donc revenons à... je vous propose de revenir à la Gemara elle-même directement pour commencer à avoir le problème du lulav hagazul lui-même, c'est-à-dire le début de la Mishnah. Et peut-être une remarque avant de lire ce premier paragraphe et de le traduire, c'est que il faut toujours savoir s'étonner devant un texte de la Mishnah ou un texte de la Gemara. Pourquoi je dis qu'il faut savoir s'étonner? Parce que mettons de côté ce texte-là. Si on venait nous dire, écoutez, quelle est la halakha du lulav hagazul, par exemple, elle dit c'est pas soul. Alors si c'est pas soul, qu'est-ce que la Mishnah vient m'enseigner? Quelque chose qui m'est tellement évident, elle va m'écrire lulav hagazul, je suis pas soul. il faudrait toujours, auparavant, dire si c'est évident, pourquoi j'ai besoin ? Si j'ai besoin, c'est que c'est pas évident, mais alors pourquoi ce n'est pas évident ? Dans ce sens, je dis qu'il ne faut pas lire le texte de la Mishnah et de la Gemara comme étant « mais ça va de soi ». Si ça va de soi, ça y est, j'ai perdu pied au niveau de ce que la Mishnah et la Gemara voudraient que je saisisse. Et d'ailleurs, immédiatement, la Gemara s'étonne. « Kapasek vetane lo shena biom tov rishon ve la shena biom tov sheni ». Le premier étonnement qu'a la Gemara, c'est qu'elle dit « Le Tana, le maître de la Mishnah, a formulé son enseignement sans faire de distinction s'il s'agit du premier jour de Sukkot ou s'il s'agit des autres jours de Sukkot en parlant du Sheni, du Yom Sheni. C'est-à-dire, l'expression ne fait pas de différence entre Yom Tov Rishon et Yom Tov Sheni. Pourquoi faudrait-il qu'il y ait une différence ? La Gemara continue, évidemment, simplement. Bishlamayabesh, Hadar Bahena. Étant donné que le lav Hagazul Veayabesh. Pourquoi est-ce que le Yabesh est Fasoul ? Parce qu'il est dit Peri'et Hadar, fruit, arbre de splendeur, d'émerveillement. Et alors, ce mot Hadar revient sur toutes les espèces. Pas seulement le cédra qui devrait être Hadar, mais même les autres espèces doivent être Hadar. Et alors, Yabesh, s'il est sec, il a perdu toute son esthétique. Non. Non, il faudrait. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure. Je ne voulais pas rentrer dans les détails du sec. Par exemple, le sec du loulav, c'est le fait qu'il devienne blanc. Or, il faudrait attendre encore 2 mois, des fois, pour un loulav, pour le voir blanchir entièrement. Pour l'arava, il faudrait que, dès qu'on la touche, elle s'effrite d'elle-même. Là aussi, même après une semaine, on a encore la possibilité. Sauf si on la laisse exposer au soleil, il est évident que elle perd probablement de ça, de son hadar. Et on va y arriver. On va y arriver au niveau de la halakha assez détaillé. Pour l'instant, essayons de suivre la Gemara. Je crois que nous laisserons, même si on ne termine pas le texte, je laisserai un quart d'heure à la fin pour poser les questions peut-être de halakha à propos de ces espèces. Alors, Bishlama Yavesh, Hadar Ba'enan Veleika. Le Yavesh, le Lulav Yavesh, la Torah exige qu'il soit Hadar, qu'il soit beau, et bon, ça n'y est pas. Et là, Gazoul, mais seulement, le Lulav qui est Gazoul, Bishlama Yom Tov Rishon, peut-être à propos du premier jour, Dirtim Lachem, Michel Lachem. Puisqu'il est écrit, si vous avez le texte, le verset de la Torah en tête, Ulkartem lachem bayom arishon. Ulkartem lachem. Le mot lachem est en plus. Ulkartem bayom arishon. Keria et Sada. Pourquoi est-ce que la Torah me dit lachem? Dirtim lachem, michel lachem. On insiste dans le fait que cela soit un loulav. Une des quatre espèces qui soit à vous. C'est pour cela, non, c'est pour cela que l'oulava gazoul passoul. S'il est gazoul, c'est qu'il n'est pas à vous. Vous l'avez pris. Mais, répétons le verset, ulkartem lachem bayom arishon. Lachem bayom arishon. Le lachem, le loulav qui est à vous, ce n'est valable que pour le yom arishon. C'est-à-dire, les autres jours, je n'ai pas besoin qu'ils soient à moi. Il suffit de prendre n'importe quel loulav, même s'il n'est pas à moi, entre parenthèses, et je peux continuer la mitzvah de Arba Aminim pendant toute la fête. Alors, s'il est vrai que je peux, que l'exigence du lachem, du loulav qui doit être à vous, n'est que le premier jour, pourquoi est-ce que la Mishnah ne fait pas de distinction ? La Mishnah n'a pas dit Lulav Agazul Veayavesh Biyom Rishon, Yom Tov Rishon, Pasul. Elle a fait de façon globale que Lulav Agazul Pasul, indépendamment du jour. Or, pourquoi est-ce qu'on exige qu'il soit à lui? C'est parce que Lachem. Parce que le texte de la Torah dit Lachem. Or, ce texte a été dit à propos de Bayom Arishon et pas à propos des autres jours. Il semble donc Ela Biyom Tov Sheni Abaylo. Mais le Yom Tov Sheni, le deuxième jour, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un Lulav Gazoul? Si on a lu ces quelques lignes, je crois qu'on est immédiatement stupéfait. Qu'est-ce que c'est que ça? On fait des mitzvot avec Vagzela. Tranquillement, la maladie, tiens. Biyom Tov Sheni Amaylo. Pourquoi Yom Tov Sheni, ça ne serait pas un loulav kacher? Comment il est gazoul? Comme celui qui va voler pour donner de la tzedaka. Il ne vole pas, ne donne pas de tzedaka, on n'a pas besoin de toi. Ken? La Gemara dit à Maïlo, mais ce serait tellement évident, Gazoul. Et même plus, et pourquoi le Yom Rishon, on n'a pas permis Lulav Gazoul? Si ce n'était pas la Torah qui nous a dit la Lachem, je l'aurais même permis. Alors la Torah insiste, le Yom Rishon, elle insistera un autre jour. Ben, okay. De quoi il s'agit de Dieu? Est-ce que vous comprenez la question, enfin l'étonnement, je dirais, que ça serait évident que le Lulav Gazoul, on ne fait pas avec une mise là. Non, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Il faudrait ici élargir, en tout cas éclairer, de quel Gzela il s'agit. Comment est-ce que l'on peut penser qu'avec quelque chose qui est gazoul, je peux faire une mitzvah? Il faut comprendre ça. D'ailleurs, il y a par exemple le din à propos du talit, que si tu prends le talit de ton copain sans qu'il sache que tu le lui as pris, tu ne fais pas de bracha. Tu peux te couvrir parce que, disons, on estime qu'un bon juif, s'il sait que tu as pris son talit, il sera content. On suppose. D'accord? Alors, mais c'est pas bien, c'est pas sur ça qu'on peut faire une bracha. Tu ne fais pas de bracha. Les dinim, à propos des choses qu'on a prises sans permission, gazoul, ganouf ou autre, sont très délicates à propos de chaque mitzvah. Donc, il s'agit d'abord de dégager comment est-ce que la Gemara comprend qu'avec un lulav gazoul, je peux faire quand même, pendant les autres jours, je peux faire la mitzvah d'Arbaa. Okay.
Okay. La Gemara apporte la notion de hadar.
D'accord.
Ce qu'elle voulait dire, lulav yavesh, l'emboudar ou l'homme ou l'homme, ou pasoul ou l'homme.
Le yavesh, quel est le hadar de chaque espèce? C'est qu'il soit tari. C'est qu'il soit frais, c'est qu'il soit... On vient de le cueillir. S'il s'est desséché, il a perdu de sa... Puisque c'est sa fraîcheur qui lui garde sa splendeur. Si, elle comprend. Elle comprend, la Gemara comprend, que pour le yavesh, on ne fasse pas de distinction entre le premier jour et le deuxième jour. Parce que Ulkartem Lachem Bayom Arishon, Lachem c'est à propos de Ulkartem. Mais Beri'et Adar Kapotem Alim Ba'anaf Et Savot n'est pas inclus dans le Bayom Arishon. Sinon, il aurait dit Ulkartem Lachem, Beri'et Adar Kapotem Alim Ba'anaf Et Savot, Bayom Arishon. Alors le Lachem entraîne derrière lui tout le verset jusqu'à Bayom Arishon. Si la Torah a coupé, alors on pense que Ulkartem Lachem Bayom Arishon par rapport au Gazoul. Avant Beri'et Adar Kapotem Alim, ça devrait être. Il faut évidemment ici, je crois, élargir le problème à propos d'autres situations pour essayer de comprendre comment la Torah se positionne par rapport à la Gzela, par rapport à l'acquisition de façon générale. quand on acquiert un, quand on achète, on acquiert un objet quelconque, il faut bien savoir que ce n'est pas tellement l'argent qu'on a donné et que l'autre a reçu qui fait que cet objet est acquis. Il y a d'autres conditions et d'autres modalités beaucoup plus sévères que l'argent que j'ai donné. D'ailleurs, les hachamim ont même fixé que ma'ot enan konot, que si j'ai donné simplement l'argent, j'ai dit à quelqu'un, écoute, je te vends, comme dit l'agmara, le blé qui est là-bas dans mon stock. Alors, tiens l'argent, le blé n'est pas encore à moi, même si j'ai reçu tout l'argent. Il faut qu'il aille, qu'il prenne, qu'il soulève, nahon, d'autres modalités, comme j'ai dit. Je ne voudrais pas rentrer ici dans toutes les modalités de l'acquisition, mais l'argent lui-même, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important? Est essentiel ce qu'on appelle da'at kone et da'at makne. Pour comprendre ce principe simple, par exemple, un enfant ne peut ni acquérir, ni faire acquérir un objet quelconque. Ki katan en lo da'at. Le katan n'a pas encore été au niveau d'acquérir ce degré de ce qu'on appelle da'at pour pouvoir faire ce commerce. Il faut donc da'at kone et da'at makne. Il faut que moi, celui qui fait acquérir ait da'at et celui qui prend ait aussi ce da'at pour que le commerce, pour que l'échange soit légal. Je vais vous donner encore un autre exemple, pas à propos de la Gzela, mais pour nous rapprocher un peu, à propos de la Aveda. Quelqu'un a perdu un objet et un deuxième l'a trouvé. Selon la Halakha, si jamais il a entendu de celui qui l'a trouvé Haval al-Hesronkis, c'est dommage pour ce que j'ai perdu, je suis sûr que je ne le retrouverai plus. Ce qu'il a trouvé, cet homme qui a trouvé cette perte lui appartient. Lorsqu'on discute dans la Gemara, à quelles conditions je dois les akhriz, comment on peut traduire ça, je dois proclamer et publier que quelque chose a été perdu, et alors il y a une série d'objets pour lesquels je n'ai pas besoin de faire publication pour l'avoir, et à d'autres objets pour lesquels il faut que je proclame. Mais pourquoi il y a des objets pour lesquels je ne dois pas publier? Parce que ces objets-là, on est presque sûr que celui qui les a perdus, il s'en est détaché consciemment parce qu'il n'a pas tel siman, il ne peut rien dire à propos de ce qu'il a perdu pour pouvoir les récupérer. Qu'est-ce qu'il fait donc? Ce qu'on appelle Yehush, Mityaesh. Il désespère de le retrouver. Il désespère, c'est-à-dire il détache sa pensée de cet objet. S'il a détaché sa pensée de cet objet ne lui appartient plus. Il faudrait ici, évidemment, on pourrait là aussi être scandalisé, mais qu'est-ce que c'est? Je sais que c'est à lui. Et parce qu'il a dit, va aider les Hesronkis, malheur à cette perte qui m'est arrivée, alors ça y est, c'est pas joli, c'est pas bien, quand même, je sais que c'est à lui, il faut le rendre. C'est une halakha qui n'est pas très... comme on dit des fois, elle est truquée, hein. On cherche des façons. Il faut évidemment distinguer ici entre deux niveaux, des relations dans certaines halakhot de la Torah. Il y a les conduites de ce qu'on appelle les conduites convenables. Et il y a les conduites qui sont sikhnim, qui sont du point de vue de la droiture, de ce qui est juste, de ce qui est selon la définition. de ce qui est selon l'essentiel de ce qui se passe. Évidemment, au niveau de la convention, je devrais lui rendre cette affaire. C'est sûr. Au niveau des conventions sociales, au niveau de la bonne relation, il faut lui rendre. Ce n'est pas parce que c'est un objet duquel il a désespéré de retrouver que je vais me retrouver. Mais, du point de vue de l'essentiel, si l'acquisition se fait par la pensée, ou si la pensée est condition essentielle pour acquérir un objet, et que cette pensée n'est plus là, alors il n'y a plus de relation entre cet objet et cette personne. Et alors, au niveau de l'essentiel, c'est un objet qui me revient. Est-ce que c'est clair? Il est évident que quelqu'un qui rend cette affaire, même qui lui revient à son prochain, et il n'a pas fait de avera, c'est sûr. Mais il s'est conduit au niveau des conventions sociales, pas au niveau de ce qu'est ce que le Sehel indique au niveau des définitions essentielles de chaque réalité. C'est pour cela donc que la Aveda, et nous allons voir même au niveau de la Xéla quelque chose qui est difficile à comprendre, mais qui se comprend dans la lignée de cette l'acquisition, puisque les Hachamim disent quelqu'un qui a volé, qui a pris un objet quelconque, si jamais par exemple il a volé des bouts de bois, et ces bouts de bois il les a sculptés et il en a fait une table, alors cette table est à lui, il rendra lorsqu'il voudra à son prochain la valeur monétaire de ce que il a ce qu'il a ravi. Si jamais ces planches de bois sont restées comme telles, il faut qu'il lui rende ces planches de bois. Quelle est la différence? L'acte de transformation qu'il a provoqué dans ces planches de bois lui ont donné l'acquisition de ces planches de bois. Voilà encore une condition qui fait l'égalité de l'acquisition, qui est finalement ce qu'on appelle dans la Gemara Shinui Ma'ase, parce qu'il a changé l'objet lui-même, il a acquis cet objet. Il a un problème de Xéla, c'est sûr. C'est sûr que ce n'est pas parce qu'il a changé cet objet-là que c'est à lui, que ça y est, c'est fini. Pas du tout. Mais il y a une différence entre l'état où il n'a rien fait de ce qu'il a volé et l'état où il a fait, où il a provoqué une transformation irréversible. Il faut ajouter ici, s'il y a une transformation irréversible, il n'a pas besoin de la rendre. C'est-à-dire que dans ces problèmes, par exemple, de Aveda, de perte, ou dans les problèmes de Xéla, voilà que la Torah nous dévoile quelque chose d'a priori bizarre. Il y a eu Aveda, il y a eu Xéla, par exemple. Eh bien, à certaines conditions, c'est à celui qui l'a trouvé, c'est à celui qui a fait la Xéla que cela revient. Comme si on séparait les deux mondes. Il y a le monde de la faute dans laquelle il a vécu lorsque il a pris, mais si il a transformé ce qu'il a pris, cet acte de transformation lui donne légitimation de ce qu'il a volé.
C'est lui qui a fait la transformation. Si la chose s'est transformée en lui.
Même ça. Par exemple, les Hachamim donnent ce qu'on appelle Shinui Hashem. Il a par exemple volé un veau et il est devenu taureau. D'accord ? Pas. Alors, à la limite, il n'a provoqué aucune transformation, mais le fait même que cette bête a grandi et elle a changé de nom, ce changement de nom lui donne acquisition. Et il devra payer le prix d'un vœu. C'est-à-dire, il y a donc là, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout conventionnel, d'accord, c'est sûr, mais la Torah m'enseigne ici le fait que certaines conditions, que ce soit le phénomène du da'at, que ce soit le phénomène du shinui ma'asé, shinui hachem, font exister des réalités tout à fait nouvelles, et alors je ne peux plus juger sur cette réalité en tant qu'elle n'est plus là. Et je suis obligé de différencier entre le fait que il y a une avera ici, il y a une xéla, et il y a eu une transformation qui fait que cette xéla lui revient. Dans ce cas-là, on est légèrement proche de ne pas s'étonner de Lulav HaGazoul. Lulav HaGazoul, c'est vrai, il a fait une xéla. D'ailleurs, des fois, il faut peut-être se remettre dans des états pas toujours négatifs, dans le sens où c'est un voleur, c'est un malfaiteur, qu'est-ce qu'on s'attache bichlal à sa mitzvah. Il y a des fois peut-être quelqu'un qui aurait voulu faire la mitzvah, ça lui arrive une fois par je ne sais combien, et alors il dit à la limite, je paye le prix de la xéla, ça ne fait rien. Je vais faire à la limite une faute pour pouvoir réaliser la mitzvah. Il ne faut pas faire ces raisonnements, évidemment. Aval, je dis, il y a quelque part une